Divergence FM, l'interview.
Ce jour, dans les studios de Divergence FM, nous recevons deux personnes que vous connaissez bien, chers auditeurs, puisque j'ai en face de moi Béatrice Pradillon et Damien Farjou. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Alors vous les connaissez parce que dans l'ordre, Béatrice, elle nous propose une chronique tous les mercredis, vient te faire dévalider, et Damien nous propose une chronique mismatch sur l'accessibilité dans le jeu vidéo que vous pouvez bien sûr retrouver en podcast sur le www.divergence-fm.org. Mais aujourd'hui, vous êtes avec nous pour parler de la soirée du 25 octobre prochain, pardon, ça sera de 18h30 à 20h30, ça sera au QG, une conférence participative sur le validisme. Et c'est par votre association Dear Valid People. Alors avant de parler de cette conférence débat, moi j'aimerais bien que, parce que bon, je pense que la majorité des auditeurs ne savent pas vraiment ce que c'est que le validisme. Qu'est-ce qu'est la définition du validisme pour vous ?
Oula, en fait, le validisme, c'est un peu l'oppression systémique. Hein. Ça veut dire qu'elle est dans toutes les couches de la société et qu'on la retrouve un petit peu dans toutes les sphères, hein, éducatives, médicales, sociales, familiales, professionnelles, etc. C'est toutes donc les discriminations et inégalités que subissent en fait les personnes handicapées, simplement parce que elles sont étiquetées, perçues comme comme sortant de la norme en fait, de la validité.
Ouais.
Voilà.
Et ça, on peut dire que c'est l'envie de vouloir réparer les gens parce que justement, ils sont pas dans cette norme, en fait.
Alors, en effet, c'est... En fait, le validisme, on peut aussi parler de philosophie par rapport au handicap. On va parler du modèle médical, du modèle social. Et en effet, dans le modèle médical, il y a exactement ce que tu viens de dire, cette envie de guérir les gens, de réparer les gens. Et alors que nous, on dit qu'il n'y a pas de réparation, et déjà d'un point de vue pragmatique, la réparation n'est pas toujours possible. Donc il faut peut-être trouver deux solutions pour pouvoir avancer, sinon on est bloqué.
Ouais.
On est bloqué par un plafond de verre et ça va créer aussi d'autres formes de validisme, et notamment des personnes concernées.
Bon, on fait une petite parenthèse là-dessus, mais j'aimerais savoir votre avis. J'imagine qu'il est, il est pas très positif sur l'état du handicap en France.
Oula. Alors en fait, on se rend compte, je pense, que les choses, elles n'ont pas tant évolué que ça. On a l'impression que ça évolue, mais en fait, politiquement, y a qu'à voir en fait un peu les programmes politiques, des différents partis quand il y a des élections. Le programme handicap, il fait deux lignes en général. Il y a deux lignes, il y a deux petites mesurettes comme ça pour dire hop, on a pensé aux personnes handicapées. La preuve, on a eu un gouvernement, ils ont quand même réussi à oublier le ministre du handicap.
Ouais, ils sont donc, très forts hein, quand même.
Voilà. donc clairement, on est toujours un peu les à la trappe, hein, voilà, c'est on y pense en dernier, voilà, si on a un petit peu de temps comme ça, donc.
Oui, et puis j'ai l'impression que c'est beaucoup d'effets d'annonce, mais on met pas forcément les moyens financiers derrière.
Le problème, c'est que ça revient à dire que le handicap est encore un non-sujet politique, donc lui il reste pas d'espace. Comme dit Béa, quand il y a deux lignes, c'est déjà énorme en fait, parce que la plupart des programmes mais il n'y a pas de ligne du tout.
Ouais.
Donc oui, ça, c'est surtout cette problématique-là, cette invisibilisation, qu'elle soit politique, et forcément, derrière, elle va être aussi sociale.
Et pourtant, on sort d'une période quand même qu'on aurait pu croire pouvait pousser justement à de grandes avancées. Mais par exemple, moi, j'ai appris que sur les lignes de métro parisiennes, par exemple, ils avaient fait des accès pour que les gens en fauteuil roulant puissent accéder au métro, mais que c'est vraiment pas sur toute la voie.
Non, mais en fait, on continue de dire, par exemple, les problèmes d'accessibilité, c'est un problème courant qu'on rencontre, mais vraiment plein de personnes handicapées qui les gênent vraiment dans leur vie, vraiment, c'est le premier niveau, quoi. Quand tu peux pas sortir de chez toi et traverser la rue, déjà, t'es un petit peu coincé. Et en fait, sauf quand on va dire, par exemple, la ville de Paris, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le métro, après les Jeux Paralympiques, il est toujours complètement inaccessible? Ils vont dire, oui, mais vous comprenez, les structures sont anciennes.
Oui.
Mais non, il y a d'autres pays où ils avaient aussi des métros super anciens. Ils ont accessibilisé leur métro.
On peut donner l'exemple du métro de Londres, justement, à l'occasion des Jeux Paralympiques.
Tout à fait. Il y a d'autres endroits, en fait, où ils avancent, où ils progressent beaucoup. En France, on a vraiment, il faut se rendre compte, on a vraiment un gros retard sur toute la question de la politique du handicap en France. On est très, très en retard sur plein de sujets.
Et vous pensez que ça vient, ce retard, il vient d'une prise de conscience, des politiques, on vient de le dire, mais peut-être aussi d'une prise de conscience de la population.
En fait, ça revient à ce que disait Béa tout à l'heure, que on a l'impression que les choses évoluent en fait tant que ça, parce qu'en fait les choses bougent, mais elles tournent autour du pot, elles vont jamais au cœur du problème.
Ouais.
Et ce qui fait, si on va pas au cœur du problème, on va réellement trouver de solutions.
Mmh.
On n'arrive pas à accepter aussi la réalité, c'est-à-dire que oui, les structures sont anciennes, d'accord, si tu veux, donne-moi les excuses, la raison si tu veux. Par contre, ce que je ne comprends pas, moi, c'est qu'on ne mette pas en place des notions d'alternative, quelque chose dont je parle dans Mismatch, mais qui, en fait, pour moi, est la base dans l'accessibilité. C'est-à-dire que on parle beaucoup de l'accessibilité du bâti, beaucoup.
Oui,
il y a des lois qui sont pas toujours, qui sont jamais respectées d'ailleurs, mais nous en fait en tant que personnes concernées, on s'en fiche de la loi, on s'en fiche des normes. D'ailleurs, on a l'impression que les gens ils respectent plus les normes, ils cherchent à respecter les normes plus qu'à respecter les personnes.
Oui.
Ce qui fait que souvent il peut avoir des normes respectées mais qui ne conviennent pas aux personnes concernées, bête, où tu sens que finalement tu fais ça pour les normes et parce qu'on est obligé de le faire.
Je peux donner l'exemple d'un restaurant la dernière fois. Ils ont les toilettes PMR, mais ils ont mis une table devant avec des chaises. Donc on ne peut pas accéder. Donc ces genres de trucs, c'est pour dire, regardez, on l'a fait, on respecte la loi. Par contre, en fait, dans les usages, on ne respecte pas les personnes parce qu'on a mis une table avec des chaises devant. Donc voilà. Et c'est vrai qu'il y a un petit truc que j'ai remarqué aussi qui fait que toujours on est à la traîne sur le handicap. Il y a aussi un aspect, un peu le côté, on fait la charité aux personnes handicapées.
Oui.
C'est-à-dire qu'en fait, quand on nous fait quelque chose dans notre sens, c'est un peu, regardez, on a déjà fait ça pour vous. Voilà, on a fait la charité, on a fait nos bonnes œuvres, maintenant on passe à autre chose. Donc voilà, il y a un peu ce côté-là.
Il y a aussi le principe de la faveur, c'est on nous fait faveur
de juste pouvoir se déplacer ou de vivre comme tout le monde.
Et c'est-à-dire qu'en fait, vu qu'on nous fait des faveurs, on ne devrait pas parler, on ne devrait pas se plaindre parce que, attendez, c'est déjà énorme, mais ce que tu as dit, Béa, c'est exactement ça, c'est l'usage. En fait, on oublie les usages parce que pour les gens, dans l'imaginaire commun, il n'y a pas d'usage quand on est handicapé. On ne fait rien.
Oui. Oui. Et ça progresse un petit peu dans les têtes, notamment au travers des conférences que vous pouvez organiser. On va revenir dessus. Donc, cette conférence du 25 octobre de 18h30 à 20h30, c'est au QG. C'est où le QG exactement pour
les
auditeurs ?
Quai des Tanneurs. De quai des Tanneurs à côté de la rue.
Juste à côté d'ici.
Albert Ier, oui, à côté d'ici.
Voilà, quartier généreux. Donc.
Ouais, c'est ça. Et donc, vous allez proposer avec votre association Dear Valid People une conférence participative sur le validisme. Alors déjà, on va faire un petit peu l'histoire de votre association. Je sais que vous menez pas mal de combats. C'est quoi votre association ? Elle date de quand ? Et combien vous êtes ?
Alors, l'association, en fait, elle est basée sur une émission de radio que j'ai créée à l'époque, en 2019, du même nom, Dear Valid People, qui a eu différents formats, qui a ramené des gens. Des gens sont intéressés à l'émission. Et on s'est posé la question, mais comment on peut faire plus ? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? Et le modèle associatif s'est imposé à nous.
Ouais.
Par rapport à ce qu'on voulait faire.
Ouais.
Donc l'association a un an déjà. Elle a été créée en septembre 2023. Et l'association a l'objectif de déconstruire le handicap et de faire parler la discrimination qui lui est le validisme. Et pour ça, on va avoir deux moyens d'action. Le premier, ça va être le rassemblement des personnes handicapées, notamment au travers de nos conférences qu'on réalise tous les mois. Un mois à la Gaz de Café, un mois au Carrousel. La prochaine conférence sera le 12 novembre.
Notez-le dans les tablettes.
Voilà, à 18h à la Gaz de Café, où on parlera des aidants.
Ouais.
Et ensuite, le deuxième moyen d'action, ça va être d'être vu comme expert sur la thématique. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que le handicap, comme on a pu le dire, on en parle peu. Mais dès qu'on en parle, on en parle mal parce qu'on n'en parle pas avec les personnes concernées.
Ouais, ouais.
C'est voilà, comme le petit mantra qu'on aime bien dire avec BA, c'est rien sur nous, sans nous.
Et on devrait bien me dire rien sans nous, en fait.
Oui.
Voilà, rien sans nous, on a un peu toujours un peu laissé de côté. Et moi, j'ai rejoint le projet Dear Valid People. Je n'étais pas du tout dans le projet de podcast. En fait, j'ai juste été invitée à parler dans une des émissions. Et du coup, ils m'ont rappelé en disant « Viens, on fait une asso ». Et voilà, je me suis un peu greffée au projet.
Faites attention, cher auditeurs, si on vous invite à dire Valid People, vous ne pourrez
pas
repartir.
Prendre une adhésion.
Vous ne pourrez pas repartir.
Et donc, sur cette conférence débat participatif, ça veut dire que le public pourra échanger avec les conférenciers. Quelles thématiques vont être abordées?
Principalement donc le validisme, les différentes facettes que va avoir le validisme. On a parlé du côté systémique, on va parler de validisme ordinaire.
Ouais.
Donc, le validisme ordinaire, c'est, on va dire, être validiste, mais sans avoir l'impression de l'être, en utilisant des petites phrases, ouais, des trucs. Par exemple, tout bêtement, on va donner un exemple, mais dire le mot « crétin ». Crétin, en fait, à la base, le crétinisme, c'est pathologique, c'est une maladie. Et de dire le mot crétin, ben, en fait, c'est du validisme. C'est aussi utiliser le mot handicapé comme insulte.
Donc ça, c'est le validisme vraiment sous-jacent à la société. C'est le pire, on peut dire, en fait. C'est le validisme de tous les jours.
C'est plus compliqué à percevoir, en fait, parce que suivant dans l'environnement dans lequel on évolue, on ne va pas le voir.
Ou on ne va pas s'en rendre compte même. Je pense que certaines personnes qui n'ont aucun problème avec le handicap ne vont même pas se rendre compte de ce qu'ils peuvent dire des fois.
C'est ça. Et il y a une petite image, un petit graphique qui a été fait par une amie illustratrice que j'aime beaucoup. En fait, elle fait un espèce de, comme ça, de cercle en disant qu'est-ce qu'on pense que c'est le validisme? C'est détester les personnes handicapées. Mais en fait, pas du tout. En fait, c'est plein de petites choses comme ça. C'est le manque d'accessibilité, c'est le validisme bienveillant, c'est tout ce qu'on intériorise. Et en fait, c'est plein de choses comme ça qui nous pourrissent la vie, des micro-agressions, c'est rentrer dans notre espace personnel, ne pas respecter notre consentement, etc. Et donc voilà, non, c'est pas juste détester les personnes handicapées, la plupart des gens ne détestent pas ouvertement les personnes handicapées, ce serait méchant quand même. Mais il n'empêche qu'ils ont des actions qui ont des effets concrets sur nos vies.
Oui, et puis c'est des petites choses de tous les jours en fait.
C'est ça.
Donc outre les conférences débats que vous organisez, est-ce que on retrouve cette question du validisme dans d'autres pans de la société? Est-ce que vous avez connaissance de ça? Est-ce que les gens commencent à en parler justement au travers de toutes ces actions que vous pouvez mener?
Alors, je pense qu'on peut en dire beaucoup, mais moi en fait il y a toujours un truc que je trouve marquant. C'est moi qui utilise beaucoup l'ordinateur et qui écris sur des thèmes non textes. En fait, on peut remarquer que quand on écrit le mot validisme, il est encore considéré comme faux, comme un mot qui n'existe pas.
Et pourtant, moi, on m'avait déjà posé la question quand je faisais une intervention, une petite conférence. On m'avait dit, mais ça existe dans le dictionnaire? Alors, j'ai dû aller vérifier sur Internet. Et oui, ça existe, validisme, dans le dictionnaire. Voilà, c'est rentré dans les usages. Et on sent quand même que tout le travail qu'on fait depuis des années, au travers de différents collectifs, des militants, etc., ça commence un petit peu à percer. Parce que la dernière fois, j'avais vu une publication LinkedIn d'une association de RH qui publiait un article sur le validisme.
D'accord.
J'ai dit, bon, waouh, ça y est, les RH commencent à entendre parler du mot. Mais par exemple, quand on va dans des écoles avec des jeunes qui sont formés pour accompagner les personnes handicapées, il y en a peut-être 1 sur 20 qui a entendu parler du mot. Donc on est encore très très loin que ça rentre dans toutes les couches de la société.
Mais justement, c'était ma prochaine question. En fait, quel est le seul moyen de lutter contre ces a priori? Ça passe par l'école, en fait, on est d'accord?
Oui, je pense.
Et l'éducation?
L'éducation, ça commence tout jeune. C'est-à-dire que si déjà toutes les personnes handicapées et pas handicapées déjà étaient à la même école, étaient dans le même cercle et n'étaient pas les personnes mises de côté un petit peu de l'école publique, déjà ça pourrait faire un petit peu bouger les choses. Et je pense que c'est à tellement de niveaux qu'il faut travailler, mais l'éducation, oui, c'est un des premiers... un des premiers biais.
Et après, même si on est plus jeune et qu'on n'est plus à l'école, je pense qu'il y a toujours moyen de se renseigner, de pouvoir s'éduquer à la question. Pour moi, ça passe aussi de ne plus parler de sensibilisation, Parce qu'on parle beaucoup de sensibilisation handicap, mais en fait, pour moi, la sensibilisation est souvent connotée comme optionnelle, associative, donc gratuite, pas professionnelle, alors qu'en fait, c'est la base et que pour moi, il faut parler de formation, d'éducation et qu'il faut l'intégrer aux programmes qui sont déjà mis en place, en fait.
On va prendre un peu, un petit pas de côté avec le nouveau gouvernement qui arrive au pouvoir. Qu'est-ce que ça donne pas des beaux jours pour les questions du handicap?
J'ai pas eu le temps de vraiment regarder en détail ce qui se passait, mais j'avoue que ça sent pas très bon en fait d'une manière générale le climat. Je crois qu'on parle déjà de grosses coupes budgétaires, par exemple pour la GFIP, c'est-à-dire que moi par exemple je suis une personne handicapée qui ait bénéficié de la GFIP à un moment donné de ma vie, et là quelques mois après que moi j'ai eu certaines aides, en fait il y a plein de gens qui s'étaient engagés dans des parcours à GFIP pour avoir des aides par exemple à la création d'entreprises. Pour l'adaptation du poste, etc., qui se sont vus toutes leurs aides se faire mais complètement coupées.
Oui. Je crois qu'on n'est pas loin des 20% de coupes.
Voilà, c'est ça. Donc coupées, divisées en deux, etc. Et là, en fait, avec le nouveau budget qu'ils ont présenté, apparemment, voilà, il y a des grosses coupes qui se font dans les budgets, dont dans les budgets handicap. Donc ça augure rien de bon pour l'instant.
Oui, et puis bon, il y a une idéologie un peu sous-jacente derrière tout ça que l'on n'aimerait pas voir arriver au pouvoir.
Tout à fait, tout à fait. On va de plus en plus vers l'extrême. Là, c'est plus une glissante, c'est vraiment le toboggan. Là, donc, on peut dire vraiment que les personnes actuellement qui sont minorisées, qui sont déjà discriminées, qui sont déjà en danger, elles le seront encore plus. Et il est vraiment temps de se dire en fait que ça touche énormément de couches de la population. Oui. Il faut arrêter de croire que nous, on est à l'abri et que c'est toujours l'autre. Non, c'est nous, on est en danger.
En tout cas, chers auditeurs, je ne peux que vous encourager à vous rendre le vendredi 25 octobre de 18h30 à 20h au quartier Généreux pour cette conférence participative. Et on est d'accord, c'est une conférence qui va parler du handicap, mais plus il y a de gens qui n'ont pas de handicap qui viennent, mieux c'est.
Tout à fait. L'idée, c'est justement de pouvoir parler avec les personnes concernées et aussi intéresser les personnes qui ne sont pas directement concernées, en fait. Ça va les intéresser.
Et ce qu'on a toujours fait avec les conférences d'Irvay People, et c'est aussi pour ça qu'on veut que la conférence soit participative, c'est-à-dire que pour nous, c'est des questions que tout le monde doit entendre et que tout le monde peut poser des questions dessus. Et qu'il faut libérer la parole parce qu'aujourd'hui, la parole, elle n'est pas libérée. Ben, les gens se sentent toujours gênés de parler de handicap, de dire le mot handicap. Ils sont déjà gênés de ça. Et nous, justement, c'est ce qu'on essaie de montrer avec les conférences mensuelles. C'est de dire, si on peut en parler, on peut se montrer, en fait.
Et dernière chose, il ne faut pas oublier en fait que le handicap, c'est une variable de la vie qui peut arriver à n'importe quel moment. Et en fait, vous pouvez vous croire totalement à l'abri de ça et en fait, ça vous tombe dessus. Et c'est hyper important de se rendre compte qu'on va tous être plus ou moins handicapés à un moment de notre vie, surtout en vieillissant. Donc, c'est intéressant de s'y intéresser même quand on se croit valide et à l'abri.
Absolument. il me reste plus qu'à vous remercier. Je rappelle que j'étais en compagnie de Béatrice Pradillon, que vous pouvez retrouver tous les mercredis sur les ondes de Divergence FM, et de Damien Farjou, que vous pouvez retrouver tous les vendredis sur le 93.9 pour sa chronique Mismatch. Merci à tous les deux.
Merci
beaucoup. Merci à toi.